Les caprices de la jalousie par Drieu La Rochelle. Je viens seulement de comprendre les véritables péripéties qui firent de Bertrand Bonnier et de Marguerite Péniel d'abord deux amants, ensuite mari et femme, ensuite deux divorcés. D'ailleurs, les confidences de mon ami Gilbert m'ont découvert des ressorts que j'avais toujours soupçonnés, car le goût physique était une raison insuffisante pour que le volage Bertrand fut demeuré si longtemps près d'une femme ni très belle ni très jeune. Je laisse la parole à mon ami Gilbert. Je voyageais seul en Espagne en 1929, quand, à la sortie d'une course de taureaux à Grenade, je me trouvais nez à nez avec Marguerite. C'était dans une sorte de parc à auto à l'écart de la foule. Assise seule dans une voiture, elle attendait quelqu'un. Elle parut fort contrariée de me voir. Deux ans plus tôt, j'avais été son amant quelques semaines. J'en avais gardé un souvenir pénible. Un fâcheux malentendu avait rapproché seulement, pour les heurter, deux êtres qui auraient pu s'estimer et devenir de bons amis si l'ambition de l'amour n'était point passée entre eux. J'avais eu du regret, surtout pour elle, car elle ne m'avait pas paru une femme faite pour les passades. Notre aventure commencée dans des effusions amicales et bientôt finie dans l'échec sensuel avait dû faire insulte à la gravité de son cœur. Aussi je compris son sentiment de déplaisir à me revoir. Mais nous étions seuls l'un devant l'autre, nous étant séparés autrefois sans geste ni mot fâcheux. Je lui dis donc bonjour. Toute troublée, elle me tendit une main dont elle me repoussait, regardant avec anxiété par-dessus mon épaule du côté de la place où la foule espagnole s'écoulait dans une grande poussière chaude. Elle répéta deux ou trois fois hâtivement « Je vous en prie, allez-vous-en ». J'allais lui obéir, devinant qu'un homme était proche, quand, en effet, cet autre surgit du côté où elle ne regardait pas, derrière une grosse voiture, comme pour nous surprendre. C'était Bertrand Bonnier. Je le connaissais bien de Paris, mais j'ignorais qu'il eut une liaison avec Marguerite, ce qui me parut aussitôt certain. La figure de Bertrand se contracta prodigieusement à ma vue, et je fus aussi étonné de l'excès de son expression que de celle qui avait dérangé et qui dérangeait encore le visage fin, mais fatigué, de Marguerite. Cependant, Bertrand se ressaisit aussitôt et s'avança vers moi avec une grande amabilité du corps et des mains. Mais sa voix fut si troublée que l'idée me vint qu'il y avait quelque drame présentement entre ces deux êtres et qu'un tiers, quel qu'il fût, se trouvait là fort mal à propos. « Bonjour, mon cher. Comme il y a longtemps que je ne vous ai vu, il faut venir en Espagne. » Il se tourna brusquement vers Marguerite, mais ce fut d'une voix soudainement plus sûre, plus apaisée, qui lui dit « Je crois que vous vous connaissez, Monsieur Gilbert X, Madame Péniel. » Il y avait quelque chose de tranquillement conventionnel dans cette présentation qui m'empêcha de croire qu'il connaissait le malencontreux passé. Je songeais à m'éloigner sur le champ, mais Bertrand, se retournant sur moi, parla et agit comme un homme sincèrement ravi d'en retrouver un autre pour qui il a toujours eu une vive disposition de sympathie, ou encore comme un homme un peu las d'un trop long tête-à-tête avec une femme. Bertrand exigea que nous dînions ensemble. Je ne suis pas diminué que j'étais seul et libre, tant était brusque son attaque. Je me serais peut-être mieux défendu si Marguerite n'avait semblé soudain oublier tout à fait son premier mouvement et prendre parti de la situation avec l'esprit le plus libre. Donc nous passâmes la soirée tous les trois, et même nous la prolongeâmes chez les gitanes. Bertrand fut d'une animation surprenante. Il n'était pas gai, mais il parlait de tout avec une mélancolie ardente qui convenait à cette chaude soirée de septembre. Il était presque tout le temps tourné vers moi, avec une attention profonde, mais qui semblait n'avoir pas besoin de long regard pour reprendre contact avec quelqu'un qu'il avait beaucoup connu. Or, il ne m'avait pas beaucoup connu. Aussi, en dépit de ma première impression, je me demandais à deux ou trois reprises si Marguerite ne lui avait pas fait des aveux. Mais celle-ci me montrait maintenant une amabilité à la fois si facile et si détachée que cela me paraissait peu probable. Autant et plus que lui ne me regardait, elle regardait son amant avec une douceur fidèle qui me persuada tout de suite de son amour. J'en fus heureux pour elle, et me laissai aller, d'autant mieux à cette belle nuit, à l'affreux charme des chants et des danses d'une race secrète que souille tout regard étranger. Je me laissai si bien aller que le lendemain je quittai mon hôtel et allai m'installer chez mes nouveaux amis. Bertrand et Marguerite habitaient aux portes de Grenade une maison que leur avaient prêtée des amis espagnols, et ils exigeaient que j'y passasse 3 ou 4 jours. Si je cherche bien dans mes souvenirs, je dois dire que de très légers mouvements échappaient de loin en loin à l'un ou à l'autre, une contraction du joli visage un peu égaré de Bertrand, et aussitôt après, un regard trop appuyé de Marguerite sur lui, avait esquissé autour de moi les signes fugitifs d'un mystère qui, à la fin, m'attira vers eux sans que je pusse me le dire. Nous vécûmes ensemble deux jours semblables à la première nuit. Nous causions beaucoup et nous nous délassions de trop parler en nous promenant et en regardant toutes choses à travers nos rêves. Le second soir, je me trouvai soudain dans le jardin et pour la première fois seul avec Bertrand. Depuis la course de taureaux, nous avions ébauché par-dessus la tête de Marguerite, ce qui arrive souvent entre les hommes, une sorte d'intimité. Nous parlâmes des femmes, comme il était inévitable entre deux hommes qui les aimaient fort, et leur avaient consacré un temps pris sur le travail et l'orgueil, ce dont ils leur tenaient peut-être rancune, mais une rancune qui ne les attachait que davantage à elles. Notre intime conversation put d'autant mieux se résoudre en une longue confidence qu'une telle situation me porte toujours au regret et à la rêverie. Quand je suis ainsi entre un homme et une femme qui me paraissent fortement unis, je fais un triste retour sur ma vie sentimentale irrémédiablement dispersée. Presque tous les penchements vinrent de moi. J'aperçois maintenant que Bertrand ne dit que ce qui était nécessaire pour me lancer ou me relancer. Je me plaignais pour la centième fois de mon incapacité à préférer le connu à l'inconnu. « Mais de quoi vous plaignez-vous » s'écria-t-il soudain, avec quelque amertume. « Puisque vous me le laissez entendre, votre mouvement vers une femme est d'abord très violent, il est donc pénétrant. » Il vous porte jusqu'au centre de son être. Pourquoi alors avez-vous l'air de croire que quelque chose vous échappe d'elle? Une intelligence sensible et servie par la passion peut d'un seul coup atteindre au fond d'un être. Si nous n'admettons pas cela, il nous faut alors douter de tous les dons et de tous les talents. Si un amant bien doué ne peut pas deviner tout de sa maîtresse dès les premières étreintes corporelles et mentales, est-ce qu'un médecin peut à première vue transpercer un client, un politique ses adversaires, un artiste son modèle? Allez, une femme qui vous aime a bientôt fait, en vous donnant tout, de vous apprendre tout sur elle. Si Don Juan courait le monde, c'est que ses conquêtes étaient rapides et lui faisaient bientôt épuiser les ressources de chaque place. Ah, m'écriai-je naïvement, mais Don Juan n'a pas été aimé. Quoi? Me demanda-t-il en tressaillant, avec une curiosité qui soudain avouait qu'elle allait à moi plus qu'à ce que je disais. Pourtant, j'étais emporté par mon plaisir et continuais. Non, il n'a pas été aimé. Je crois profondément qu'on est aimé dans la mesure exacte où l'on aime. Or, Don Juan, ne prenant pas le temps d'aimer, ne laissait pas aux femmes le temps de l'aimer. Mais pourtant, elles l'ont regretté et pleuré. Elles ont regretté et pleuré l'amour, non pas lui. Si bien qu'il était devenu aux yeux des femmes de son temps un mythe comme autrefois Adonis, bien avant qu'il le devint pour la postérité. Il me regardait avec un curieux mélange d'inquiétude et de satisfaction. Son silence sollicitait que je m'expliquasse davantage. Il y a deux degrés dans la connaissance intellectuelle et la connaissance amoureuse. Le fidèle peut reconnaître la nécessité de Dieu et ne pas l'aimer. L'amant peut percevoir avec la prompte finesse de ses sens les contours les plus minutieux de l'âme d'une femme et n'y point entrer. Alors vous croyez que le temps peut ajouter quelque chose à l'amour? Me demanda-t-il d'un ton narquois. Il n'y ajoute pas, il le fait. Alors ces miracles de rapidité auxquels font allusion ce mot profane, le génie, ce mot sacré, la grâce, vous en faites bon marché? Je me tus une seconde. Non pas, repris-je. On peut aimer au premier clin d'œil et connaître amoureusement en une minute aussi bien qu'en 10 ans. Mais cela n'est possible que si l'on porte en soi la possibilité d'aimer 10 ans la personne qui vient d'apparaître, dont seules des circonstances extérieures nous aurons ensuite séparés. Il avait baissé les paupières sur une pensée intense. « Ainsi donc, conclut-il d'une voix basse et un peu solennelle, vous n'avez jamais aimé et vous n'avez jamais été aimé? « Il est probable que non, » accordai-je d'un ton soudain mécontent. Nous nous levâmes pour rejoindre Marguerite dans la maison, et nous ne parlâmes plus que de choses indifférentes, du bout des dents, divisées par nos réflexions. Le lendemain matin, ce fut Marguerite qui s'arrangea pour être seule avec moi parmi les orangers. « C'est drôle, » rêvais-je. « Vous avez eu l'air fort mécontent de me rencontrer, et puis ensuite, vous avez tout fait pour me convaincre de venir ici. » Elle se tut un moment, puis murmura. « Je veux toujours ce que veut Bertrand. Mais encore, je savais que c'était fort dangereux de vous laisser venir ici, » me dit-elle d'une voix soudain anxieuse et confidentielle. « Mais c'était peut-être encore plus dangereux que vous ne veniez pas après qu'il vous avait vu. Comment dangereux ?» Mon incurable fatuité avait dû passer tout entière dans cette exclamation, car Marguerite me regardait des pieds à la tête avec un rire méprisant. Mais une sorte de fatigue l'engageait à me parler. « Vous pouvez vous vanter de jouer un fameux rôle dans notre histoire à Bertrand et à moi. » Son rire ayant rabattu ma superbe, je gardai la tête baissée. « D'ailleurs, je vous dois une sorte de reconnaissance, » ajouta-t-elle avec un sourire triste. Je regardais cette femme qui avait été très jolie à force de finesse, en dépit de l'irrégularité de ses traits et de sa taille peu avantageuse. Telle qu'elle était maintenant, elle évoquait une pitié vive, si vive, on se demandait s'il ne s'y insinuait pas un désir sadique. Elle parlait comme quelqu'un qui a longtemps gardé un secret et qui, las, l'abandonne soudain parce qu'il est devenu inutile. Bertrand a été très jaloux de vous. Or, il a une nature terriblement jalouse et, si ce n'était pas vous, ça aurait été un autre. Merci, je comprends. Il a été obsédé par vous. Tiens, c'est drôle. Il me connaissait pourtant. Moi, je n'ai jamais été jaloux que d'inconnus. Je ne comprends pas qu'on soit jaloux de personnes connues. On voit trop bien qu'elle ne le mérite pas assez. Après cette bourde, elle me regarda avec un nouveau mépris, haussant les épaules. Il vous avait à peine aperçu deux ou trois fois. Il ne vous connaissait pas assez pour vous juger. C'est justement... Elle s'arrêta. Mais pourquoi lui avez-vous raconté cette histoire? D'abord, il aurait pu l'apprendre. Je ne suis pas très discret, mais vous savez bien que je voulais l'être avec vous. Bon, on ne sait jamais. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'on ne peut échapper aux jaloux. Il m'avait tellement supplié de tout lui raconter de ma vie, je lui ai tout raconté. Et naturellement, il a trouvé moyen de me faire encore des reproches. J'aurais dû lui dire tout de suite mon histoire avec vous sans qu'il m'y obligeât. Je hochai la tête, sachant comment les hommes torturent les femmes en appelant mensonge ce qui est pour elles secret, secret enterré, d'où jaillit la fleur du nouvel amour. Les femmes tuent le passé en le taisant, les hommes en le parlant. « Aviez-vous d'autres histoires à raconter que la mienne ?» demandai-je, imitant aussitôt et bassement Bertrand. « Oui, pas beaucoup, mais c'est à la vôtre, qu'il s'est attaché uniquement, follement. » « Je comprends maintenant votre émoi en me rencontrant, qui précédait le sien. « Oui, vous comprenez. » Elle baissait la tête, plongée dans des réflexions anxieuses. Je ne saisissais pas sur quoi portait son anxiété. Je lançais sur le ton du badinage. Eh bien, il était jaloux de moi plutôt parce qu'il ne me connaissait pas que parce qu'il me connaissait. Maintenant qu'il me connaît, sa jalousie va se calmer. Je vais pouvoir partir. Il est déjà guéri. Elle releva la tête brusquement avec une grande angoisse dans les yeux. Vous croyez? Ah, n'est-ce pas? C'est cela. Je suis perdu. Comment vous êtes perdu? J'allais dire. Je ne comprends plus du tout. Mais j'entrevoyais vaguement une hypothèse. Je ne songeais pas à la formuler. J'attendais qu'elle le fît. « Vous êtes mon porte-malheur, » me dit-elle soudain avec plus de tristesse que de rancune. « Comment ? Tout à l'heure, vous aviez l'air de dire que j'étais votre porte-bonheur. Je ne sais plus. Non, mon instinct avait raison. Cette rencontre devait être un désastre. Mais enfin, expliquez-vous. » Elle parla tout d'un trait. « Eh bien, voilà. Au fond, je me rends compte maintenant que je me suis servi de vous contre lui. Enfin, contre lui, vous comprenez. Je l'adore. Depuis le premier jour, j'ai une peur folle de le perdre. Je sais bien que je ne suis ni très jeune ni très jolie. C'est un miracle que j'ai pu le garder si longtemps. Ce miracle se faisait sur vous. Il était jaloux. Sa jalousie me l'attachait. Il était persuadé, bien à tort, que je vous avais beaucoup aimé, que vous aviez été l'homme de ma vie, et qu'après vous, je n'en pouvais plus aimer un autre. Je la regardais. J'étais épouvanté des rôles imprévisibles et divers et sanglants qu'on joue ainsi de tous côtés dans tant de miroirs. Cela me donnait un énorme prestige à ses yeux, continuait Marguerite. Je n'ai pas compris cela tout de suite, et au début, je protestais désespérément. Dieu merci, je ne l'avais pas convaincu. Un jour, j'ai compris que c'était ma grande force sur lui. Un jour, où il était là de moi, où je pouvais tout craindre, et où votre nom revenu sur le tapis le rejeta sur moi pour qu'il me fît une scène atroce et aussi me reprit avec un désir nouveau. Depuis ce jour, j'ai songé à user de ma chance. Oh, je ne l'ai pas fait d'une façon très consciente. Je ne suis pas très lucide ni très habile, et je l'aime trop, et j'ai trop peur. C'est maintenant que je suis consciente. Maintenant, je vois que je me suis servi de vous comme j'ai pu. Plutôt mal que bien sans doute, mais enfin. D'ailleurs, cela peut être réussi justement parce que je n'étais pas trop astucieuse. Et maintenant, tout est par terre. J'étais surpris, ému, et aussi, hélas, un peu flatté, bêtement flatté. Une sorte de trouble voluptueux entrait en moi. « Mais non, tout n'est pas perdu, » dis-je machinalement. « Oh si, mais comment ?»« Oh, il voit bien que c'est lui que j'aime, que votre présence n'a rien remué en moi. » Peut-être même devine-t-il que j'ai un peu joué la comédie. J'ai fait tout le contraire de ce que j'aurais dû faire depuis que vous êtes là. Vous auriez dû être coquette avec moi. Oui, voyez comme c'est bas et impossible, et pourtant il y va de mon bonheur. Mais on aime mieux se perdre, on aime se perdre. Nous restâmes un long moment silencieux. La passion animait son visage et ses yeux. Elle me regardait sans me voir, mais ses regards se posaient sur moi, chargés de fièvre. Et son corps fatigué, soulevé par des nerfs tendus, retrouvait des lignes surprenantes qu'il avait dû montrer dans sa jeunesse. Mais non, qu'il n'avait peut-être jamais montré jusque-là, car il n'avait sans doute jamais aimé ainsi. Oui, il y avait en moi une sorte de trouble, où il entrait certes de la pitié, mais derrière la pitié, s'avançait pas de loup quelque chose d'autre. Elle se raccrochait aussi à moi dans son désarroi. Elle croyait à la fatale déchéance de sa vie, mais pourtant quelque chose se défendait en elle sauvagement, prête à tout. Et puis, sait-on quelle mystérieuse contagion se répand d'un être à l'autre? Et les jaloux n'ont-ils pas souvent le pouvoir qu'ils souhaitent d'avoir, et ne suscitent-ils pas ce qu'ils craignent? Ils désirent si éperdument le triomphe de l'adversaire dont ils attendent leur exquise souffrance. Est-ce que tout d'un coup Marguerite n'allait pas se rappeler tous ces charmes que pendant de longs moments Bertrand avait agités autour de ma figure lointaine? Et puis, enfin, nos deux corps étaient là, l'un près de l'autre. Et deux corps. Le vertige me prenait, et il me semblait qu'il pouvait la prendre aussi. Après tout, ne jouais-je pas un double jeu? Et tout n'est-il pas incurablement double? D'une voix tremblante, j'avançais quelques mots. J'essayais de prendre un ton ironique, amer, et en effet, j'avais de la rancune. Tout n'est peut-être pas perdu. Peut-être qu'il est plus jaloux que jamais ou qu'il va l'être. Évidemment, la coquetterie entre nous est impossible, et pas plus que vous, je ne serai capable, en dépit du bien que je vous souhaite. Je m'arrêtais, honteux, égaré. Elle souriait d'une façon étrange. Tant de sentiments s'enlaçaient en elle qu'elle paraissait lascive. Jusqu'où aurions-nous été si Bertrand n'était pas arrivé brusquement près de nous, au détour d'une allée, avec sa manière espionne? Mais alors nous vîmes que tout était perdu pour Marguerite. Elle et moi nous avions sursauté et offert une fort mauvaise contenance. Je m'attendais aux soupçons de Bertrand et même qu'il éclata sur le champ. Mais non, rien. Marguerite avait senti juste. Il était guéri. Et guéri de sa jalousie, il l'était de son amour. La conversation même que j'avais eue avec lui n'avait fait que parachever la décision de sa sensibilité dès notre rencontre dans le parc à auto. D'avoir connu l'inconnu l'avait guéri. Après cela, vous devinez la fin de l'histoire. N'aimant plus sa maîtresse, il l'épousa. Bientôt il en aima une autre et il divorça. Ainsi s'achèvent Les Caprices de la Jalousie par Drieu La Rochelle.